6h, 8h,
Matin Première.
Merci de nous rejoindre à 7h48. C'est le moment de retrouver Rachel Crivellaro et son invité. Hashtag MeToo, Pugement, Trump, Franken, Vado. Livre sa cuvée Actu 2018. Un cru plutôt corsé, mais 3 ans bientôt depuis l'attentat à Charlie Hebdo. Les dessinateurs de presse se lâchent-ils toujours comme avant? Ont-ils succombé au politiquement correct? Aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Une presse qui souffre de la concurrence du digital. Alors le bon vieux dessin de presse est-il en danger? On en parle tout de suite donc avec Nicolas Vado, ma chère Rachel.
Bonjour Nicolas Vado.
Bonjour.
Vous sortez un nouveau recueil de dessins de presse intitulé « Carrément dingue, l'actualité 2018 ». Elle a été particulièrement gratinée.
C'est qu'il y a un changement. On a des débats qui sont arrivés, comme le débat sur MeToo, qui est très important, ou des débats vraiment de société, alors que l'année 2017, c'était beaucoup plus des élections traditionnelles, on va dire, comme il y a eu en France notamment. Là, il y a des sujets de société dont on n'a pas vraiment pris l'ampleur au tout début. Je me souviens, le premier dessin que j'ai fait sur Harvey Weinstein, le 5 ou 6 octobre 2017, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont le publier? Parce que c'est quand même du fait divers, c'est du people.
Ça vous semblait anecdotique à ce moment-là?
Au moment de Weinstein, ouais. Quand c'est arrivé, je me disais peut-être anecdotique. Et j'ai pas compris tout de suite, il m'a fallu 24 heures, 48 heures pour comprendre, mais que la lame de fond était lancée. Donc parfois il y a des dessins qu'on fait, on se dit ça va pas durer, et puis on se trompe, et parfois on dit ça va être un énorme truc, puis ça retombe comme un soufflet.
Alors l'année 2018, elle est évidemment pas terminée, mais si vous deviez épingler, vous en viendrez d'en parler, hashtag MeToo, mais peut-être d'autres sujets qui vous ont particulièrement frappé, Trump par exemple?
Il y en a trois, il y a MeToo, je viens d'en parler, il y a le scandale Cambridge Analytica et toute la réflexion qu'on peut avoir par rapport aux réseaux sociaux, et cette espèce de bocal permanent dans lequel on est tous, qui nous rend tous fous, et puis il y a la montée des extrémistes, parce qu'il faut quand même lire les choses telles qu'elles sont, et moi c'est à ça que je sers aussi en tant que dessinateur de presse. Moi je crois qu'il y a quand même un risque de guerre en Europe parce qu'on est en train de retomber dans les travers, et Régis Debray a dit un truc très juste, il a dit que les dessinateurs de presse étaient comme les canaris dans la mine, c'est-à-dire, vous savez, dans la mine on emmène toujours les canaris, qui est un petit oiseau jaune qui chante tout le temps, et dès que le canari arrêtait de chanter, c'est que le coup de grisou était proche, il fallait être là, et tant que les dessinateurs de presse peuvent chanter, tout va bien. Le jour où ils s'arrêteront de chanter, ça sera déjà...
Alors justement, est-ce que les caricaturistes et les dessinateurs de presse chantent toujours? Ça fait 3 ans bientôt après la tuerie de Charlie Hebdo, plus de 3 ans aussi pour l'affaire des caricatures de Mahomet. Est-ce que la liberté de caricaturer, elle est revenue comme avant, ou bien il y a quelque chose qui a changé pour les dessinateurs de presse?
Elle n'est pas revenue comme avant, dans le sens où malheureusement, on ne peut pas dessiner le prophète Mahomet en page 3 du Vif L'Express, parce que sinon j'aurais de gros problèmes. Donc de ce point de vue-là, les obscurantistes ont gagné une bataille. Ils n'ont pas gagné la guerre, ils ont gagné une bataille. Maintenant, il faut voir les pays. Les pays sont différents. En Belgique, on a quand même une grande liberté de presse. On a une grande exposition dans nos journaux et médiatiques en général, ce qui est assez rare. Maintenant, est-ce que le politiquement correct est revenu? Il revient un peu partout. Je vais souvent dans les écoles. J'en ai fait une la semaine dernière. Il y a une jeune fille qui était passionnante par ailleurs, qui posait plein de bonnes questions et qui me dit à un moment, monsieur Vado, on dit souvent qu'il y a moins de liberté d'expression qu'il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Je lui dis oui. Et elle ajoute, est-ce que vous pensez pas que c'est une bonne chose?
Ça veut dire quoi? Qu'il y a des sujets qui sont tabous maintenant?
Il y a des sujets qui sont tabous. Les idoles, quelles qu'elles soient. Les idoles peuvent être religieuses, mais elles peuvent être tout à fait non religieuses. Comme c'est le cas de Damso, par exemple.
Ah, mais on peut pas parler de Damso.
Et j'ai fait exprès, en un dessin sur Damso, parce que je trouvais que c'était une très bonne chose qui n'ait pas fait l'hymne des Diables Rouges. Et alors là, je peux vous dire que vous, alors que ces jeunes, vous leur parlez pendant une demi-heure de MeToo, de la libération des femmes, trouvent ça très bien, vous abordez le sujet Damso, c'est intouchable, parce que c'est une idole, et une idole est intouchable. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est revenu dans un particularisme, une sorte de nouveau féodalisme. C'est la montée des extrêmes, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne dirige plus pour le sens commun, on dirige pour ses affidés, pour sa page Facebook. C'est la même chose au niveau politique, et on s'aperçoit quand on parle avec notamment des jeunes, on ne peut pas toucher à leurs idoles. Et c'est ça qui est assez...
Ou c'est le dessinateur de presse qui a perdu le contact avec les jeunes. Quand on parle avec les jeunes, Damso dit bah, c'est du second degré, pourquoi est-ce qu'on s'en prend aussi fort hors lui?
C'est possible, mais moi je vais essayer de leur expliquer que j'avais jamais entendu parler de Damso avant l'affaire, et je suis allé voir ses paroles, et même s'il y a du second degré, moi qui n'avais jamais entendu parler de lui, je ne percevais pas ce second degré. C'est une question à laquelle moi je suis confronté toujours en tant que dessinateur de presse, sauf que je travaille dans des organes de presse. où les gens s'attendent à voir des dessins et s'attendent à être dans une case de quelqu'un qui est un éditorialiste de presse. Ce qui n'est pas le cas de Damso, et je leur ai dit encore une fois, Damso a tout à fait le droit de faire la musique qu'il fait, mais de là à être l'incarnation des Diables Rouges qui ne parle pas qu'à une seule communauté ou génération, il y a un pas qui est difficile à franchir. Et donc de ce point de vue-là, c'est étonnant de voir à quel point on est dans une société qui a peur d'elle-même, où les gens n'ont pas peur d'être choqués, mais ils ont peur que le fait qu'ils ne soient pas choqués choque leurs voisins. C'est ça le politiquement
vous
correct.
Vous ne vous mettez aucune limite personnellement?
Si, je me mets évidemment, je me mets des limites. J'essaie de ne pas me moquer de gens qui ne pourraient pas se défendre. Par exemple, les enfants, les morts, gens comme ça, ça j'évite. J'essaie surtout de chercher où est la ligne jaune, orange et éventuellement rouge. C'est ça qui...
Ça veut dire quoi? Qu'il y a par exemple certaines couvertures de Charlie Hebdo qui vous ont peut-être choqué?
Mais oui, moi je suis parfois choqué par des dessins de Charlie Hebdo et je le dis quand je parle avec des jeunes, on a le droit d'être choqué. Ils ont l'impression qu'on n'a plus le droit d'être choqué. On a tout à fait le droit d'être choqué, mais on a le devoir de le dire sans se taper dessus. C'est ça qu'on appelle le débat. Moi, il y a des dessins de Charlie que je trouve tout à fait choquants et je ne vais pas les interdire, leur demander qu'on les interdise puisqu'ils restent dans le cadre du droit. Le droit, il est sain. Vous n'avez pas le droit de diffamer ou d'insulter des gens. Vous avez tout à fait le droit de diffamer ou d'insulter, entre guillemets, des idées ou des cultures. Et c'est ça qu'on appelle le débat politique.
Et la limite dans la caricature, on a vu récemment un personnage amérindien dans la série Simpson qui a été retiré parce qu'il concentrait trop de clichés. Est-ce que ça va trop loin pour vous, ça?
Oui, ça va trop loin parce qu'aujourd'hui, on nous reproche non seulement ce qu'on dessine, mais on nous reproche ce qu'on dessine pas. C'est-à-dire que quand, pour revenir à Charlie Hebdo, quand il y a 2 ans, Rice fait la couverture de 1 an après Charlie Hebdo et on voit Dieu avec une Kalachnikov qui s'enfuit, il y a marqué le suspect court toujours. On lui a pas reproché d'avoir dessiné Dieu, on lui a reproché de ne pas avoir dessiné Mahomet. Donc par exemple, si vous dessinez un personnage, on va dire il faut plus de diversité, il faut plus de ceci, il faut plus de cela. Et on n'en sort plus parce que dans ce cas, vous êtes toujours la minorité de quelqu'un. Il faut comprendre que le dessin de presse n'a pas de vertu, on va dire, à dire la vérité. Le dessin de presse, c'est un regard, ça n'est pas l'exemplarité.
Il doit rester un peu pour la gratter. Nicolas Vallaud-Durgis, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. D'abord, qu'est-ce que ça pourrait vous inspirer comme dessin? Et est-ce que de devoir en arriver à une journée avec un thème pareil, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose d'inquiétant par rapport à la liberté de la presse et au travail des journalistes?
Ça veut dire qu'il y a 364 jours dans l'année, les journalistes ont quand même intérêt à faire gaffe, quoi. il faut savoir que on va vers la dictature quand on s'en prend d'abord aux journalistes. On commence toujours par les journalistes, ensuite les artistes, ensuite les autres. Quand on s'en prend à des journalistes, c'est que le coup de grisou n'est pas très loin. Pour revenir aux États-Unis, on voit la tuerie de Pittsburgh. Trump a dit que c'était évidemment la faute des journalistes à nouveau. À Pittsburgh, il y a quelques semaines, j'ai un collègue dessinateur qui a été viré parce qu'il avait dessiné sur Donald Trump. Petit à petit, le mal est en train de s'insérer et donc les journalistes ont des défauts comme tout le monde, mais quand on s'en prend aux journalistes, c'est quand même pas très possible.
Est-ce que le phénomène des fake news, ça vous inquiète? Ça pourrait être quelque chose qui va porter atteinte, qui peut porter atteinte à la crédibilité de votre métier?
Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'absence totale d'éducation aux médias dans les écoles. C'est ça qui m'inquiète. Et je pense qu'il faudrait vraiment un cours d'initiation aux médias, de compréhension des médias dans les écoles, ce qui n'existe absolument pas, parce que quand vous parlez avec des jeunes, ceux qui assurent les réseaux sociaux, pour eux, c'est la vérité. Et donc, on ne fait pas du tout la différence entre ce qui est du fake news, c'est-à-dire des infos mensongères, pour parler en vrai français, et ce qui est de l'info ou du point de vue. Et ça, c'est inquiétant, et je pense qu'on est au 21e siècle dans une école qui vous apprend toujours à lire avec des manuels, mais qui ne vous apprend absolument pas à décrypter le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Alors, vous publiez vos dessins dans l'Écho et le Vif. De manière générale, la presse écrite, ça va pas très très fort. On a encore entendu cette menace de plan social à vers l'avenir. Est-ce que ça vous inquiète aussi pour votre spécificité? Est-ce que ça ne risque pas aussi de porter atteinte aux dessins de presse?
Alors, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de demandes de contenu qu'aujourd'hui. Moi, je fais partie du contenu. Donc, le support est différent. Maintenant, il faut voir à l'ère digitale, parce que vous dites la presse se porte mal, cocorico. Il y a quand même un quotidien qui se porte bien, c'est le mien, c'est l'Écho.
Voilà, ça c'est fait,
même
oui.
Même si on n'a plus de rédacteur en chef, au moins ça se porte bien. Mais parce que l'Écho a énormément avancé sur le digital, sur le lectorat digital.
Le dessin de presse, il est transférable sur le web.
Le dessin de presse est transférable sur le web.
Le même impact sur le web que sur un support papier,
Il peut avoir plus d'impact parce que je vais faire faire un dessin qui va être vu à l'autre bout du monde, qui va être sorti de son contexte, donc ça peut être dangereux, mais ça touche en même temps plus de monde. Je pense que les deux peuvent jouer, mais c'est aussi pour ça que je fais des livres, parce que les gens en ont marre du tout virtuel, ils veulent aussi garder une trace physique, et c'est pour ça que je fais des livres, parce que comme ça, ils auront un truc sur du beau papier à garder.
Des livres que vous devez éditer en fonds propres ?
Pas que je dois éditer, que je souhaite éditer, parce que ça s'appelle l'ubérisation de l'économie, qui touche tous les secteurs, y compris l'édition.
Merci Nicolas Vado. Alors quand vous tapez Nicolas Vado et Australie, vous tombez sur une carte blanche que vous avez donnée dans l'écho il y a quelques mois, au mois de juillet. Pourquoi cette carte blanche ? Expliquez-nous.
Parce que j'en avais marre d'entendre Théo Franken nous parler du modèle australien en ne prenant que ce qui l'intéresse, c'est-à-dire le verrou à l'entrée, sans prendre le sésame à la sortie que moi j'ai vécu en tant qu'immigré là-bas. L'Australie est une machine à intégrer les gens, même s'il y a des problèmes avec les réfugiés.
Voilà, et votre témoignage est donc sur l'écho. Donc c'est encore disponible, je pense.
Tout à fait.
On retrouve Sophie Brems pour Jour Première. Bonjour.
Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Et on va vous parler ce matin d'une notion importante, le droit du sol qui attribue la nationalité d'un pays si on est dans ce pays. C'est le cas, vous savez, aux États-Unis, mais Donald Trump n'en veut plus.
C'est ridicule, nous sommes le seul pays au monde où une personne arrive et a un bébé. Et le bébé devient d'office un citoyen des États-Unis pendant 85 ans et bénéficie de tous ses avantages. C'est ridicule, il faut en finir.
Voilà, mais Donald Trump se trompe. Ce n'est pas le seul pays à appliquer ce droit du sol. Puis il s'attaque aussi, il faut le dire, à un socle de la Constitution. Droit du sol, droit du sang, on en parlera avec notre invité à 8h30.
La première, l'esprit clair.